L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ordres de Radio Galaxy 98.5. Depuis les studios de Radio Galaxy, par téléphone, nous recevons Thomas Ferrer, qui est auteur du livre « Passeurs et évadés dans les Pyrénées » aux éditions Cairn. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors, avant de développer sur ton livre, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu?
Alors, je suis enseignant au lycée Jean Dupuis, professeur d'histoire. J'ai également mené quelques recherches historiques, là, depuis 2010 à peu près, sur différents thèmes. Tout d'abord, la Seconde Guerre mondiale dans le département, que j'ai participé à la réalisation d'une exposition sur ce thème-là, intitulée « Collaboration, résistance, libération dans les Hautes-Pyrénées », qui a donné lieu à un livre par la suite. Ensuite, je me suis intéressé aussi au premier conflit mondial, ce qui a donné lieu à un ouvrage aussi collectif, intitulé « Tarbes, ville de l'arrière ». Et j'ai également travaillé sur le camp de garnison pendant la guerre 14-18, qui est un camp où étaient internés les ressortissants des pays ennemis.
D'accord. Et tout ça, en fait, ça t'a donné envie de faire un livre sur les passeurs et évadés dans les Pyrénées, ou c'est une continuité logique? Comment c'est arrivé ce projet, en fait?
Donc, en ce qui concerne le livre sur les passeurs et les évadés, je pense qu'il faut remonter à l'année 2015. Puisque lors de cette année 2015, donc j'ai participé à la réalisation d'une exposition sur la Seconde Guerre mondiale dans les Hautes-Pyrénées. Et durant ce travail, j'ai croisé quelques figures de passeurs et d'évadés. Mmh. Et au niveau des passeurs, notamment Gérard de Clarens, François Vignol, Georges Adagas et bien d'autres. Par ailleurs, c'est une autre raison de ce travail, c'est que l'année 2015, c'est aussi une année où on a reçu en France un certain nombre de réfugiés. Ou du fait des conflits en Méditerranée, notamment en Syrie, la thématique des réfugiés, des passeurs et de tout un tas de personnes en mouvement faisait l'actualité. Donc ces deux éléments ont fait que j'ai eu envie de travailler ce sujet, plus précisément sur les Pyrénées et sur la Seconde Guerre mondiale.
Et donc de là en est sorti ce livre « Passeurs évadés dans les Pyrénées », donc on rappelle aux éditions Cairn. J'ai envie de dire bravo, très réussi, super ouvrage que je conseille à tout le monde. Dans ton livre, tu développes sur quatre thèmes principaux. Est-ce que tu pourrais nous les présenter ou présenter son contenu en fait?
Tout à fait, il y a quatre thèmes qui essayent un peu de faire un panorama de toutes les grandes questions qu'on peut se poser sur ce sujet précis, donc des passeurs et des évadés. Le premier questionnement, c'est un questionnement autour de la frontière. Ouais. Cette frontière franco-espagnole, symbolisée par les Pyrénées, qui est en fait un espace depuis très longtemps et traversé dans les deux sens. Il se trouve que dans le contexte de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, c'est une frontière, on le sait bien dans le sud-ouest, qui a été traversée dans un premier temps du sud vers le nord, avec le flux de réfugiés espagnols. Donc ça, c'est une première partie que j'évoque un peu, mais rapidement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Mais je l'évoque quand même, puisqu'il se trouve que parmi les républicains espagnols qui vont franchir la frontière du sud au nord, il va y avoir par la suite, quelques mois ou quelques années après, des personnes qui vont s'investir dans la résistance en France, et certains qui vont eux-mêmes devenir passeurs, et dans le sens inverse, c'est-à-dire du nord vers le sud.
Voilà, donc c'est important.
Voilà, c'est quelque chose qu'il faut poser, je pense, d'emblée. Et le deuxième intérêt de travailler sur cette question de la frontière, c'est qu'on s'aperçoit qu'entre 1939 et 1945, la législation qui régit le passage de la frontière est extrêmement changeante. C'est-à-dire qu'il y a trois États qui interviennent. Il y a bien sûr l'Espagne franquiste. Il y a pendant au moins jusqu'en 1944 la France de Vichy. Et il y a aussi l'Allemagne nazie qui intervient, puisque dès 1940, les nazis sont présents au Pays Basque. Et à partir du 11 novembre 1942, ils sont présents sur tout le sud de la France, puisque la zone dite libre, à partir du 11 novembre 1942, est elle-même occupée. Donc il y a là aussi à préciser les conditions de passage légales qui sont mises en œuvre par ces trois régimes, avec souvent une forme de concurrence entre les trois régimes. Ensuite, montrer que finalement, ces possibilités légales de passage deviennent tellement infimes que beaucoup, on verra peut-être quelle catégorie ensuite de personnes, beaucoup tentent de passer clandestinement.
Voilà, ça c'est le premier thème qui est abordé en fait. Voilà.
Tout à fait.
Voilà, pour donner une idée générale. Le deuxième thème, tu parles de quoi ?
Alors pour ce qui est du second thème, justement, on s'intéresse aux catégories de personnes qui ont essayé de passer, puisque toutes évidemment n'y sont pas arrivées pour différentes raisons. Je pense qu'on peut évoquer en fait ces différentes catégories de manière chronologique. Il se trouve que dans le sud-ouest, on a eu un premier flux de réfugiés importants à partir du printemps 1940, qui a été constitué par les Belges. Les Belges donc qui ont fui l'avancée nazie du printemps 1940 et qui ont, pour une partie assez conséquente d'entre eux, essayé de se réfugier dans le sud-ouest, notamment dans la ville de Lourdes, où se trouvait un camp de réfugiés belges, et aussi, on le sait, bien sûr, un certain nombre d'hôtels qui ont pu accueillir ces réfugiés. Parmi ces réfugiés, un certain nombre de jeunes hommes, ont eu assez rapidement le projet de passer la frontière pour ensuite, via, pour beaucoup d'entre eux, le Portugal, rejoindre l'Angleterre et continuer le combat contre le nazisme. C'est une première catégorie. Ensuite, il y a une seconde catégorie importante, ce sont les Polonais. Et parmi ces Polonais, une assez forte proportion de Juifs, qui, en fait, depuis le milieu des années 30, cherchent à fuir tous les États où le nazisme, finalement, a pris de l'ampleur. Alors, bien sûr, il y a des Allemands, mais il y a aussi des Autrichiens, des Polonais, à partir du 1er septembre 1939, date du début de la Seconde Guerre mondiale et date de l'invasion de la Pologne par les nazis. Donc les Polonais sont un peu comme les Belges, pour beaucoup situés à Lourdes, puisqu'il se trouve qu'à Lourdes, il y a un certain nombre aussi de réseaux d'accueil constitués par les religieux, qui accueillent les Polonais, y compris juifs. Et assez rapidement, à partir de la fin de l'année 1940, début 1941, des structures de passage vont s'organiser pour essayer, pour une partie en tout cas de ces juifs polonais, de sauver leur vie, puisque là l'enjeu c'était celui-là, en ce qui les concerne. Ensuite, si on avance un petit peu dans le temps, il y a d'autres catégories de personnes qu'il faut signaler. Il y en a une qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle les réfractaires au STO. Le service de travail obligatoire est mis en œuvre par le gouvernement de Vichy, notamment Pierre Laval, à partir du début de l'année 1943. Et là, beaucoup de jeunes hommes, à la fois originaires de nos départements proches des Pyrénées, mais aussi originaires de bien plus loin, essayent, soit seuls, avec une carte et parfois des chaussures qui leur permettent de traverser la montagne, ils essayent seuls de traverser cette frontière. D'autres, évidemment, contactent un certain nombre de réseaux de passeurs qui se constituent progressivement à partir de l'année 42-43 en ce qui concerne la frontière pyrénéenne. Pour terminer, mais c'est plutôt la fin du livre, il se trouve que à la fin de la guerre, il y a aussi des gens qui essayent de passer, mais pour le coup, eux, ils essayent de passer parce qu'ils ont, on va dire, collaboré avec la puissance nazie et ils essayent de fuir.
Et oui.
L'épuration, c'est ce qu'on appelle les réfugiés de la libération, et c'est aussi un autre flux qui peut être intéressant à étudier.
Ouais. D'accord, ça c'est abordé dans le deuxième thème, c'est ça ?
Le deuxième thème.
On est d'accord. Et pour le troisième thème ?
Alors pour le troisième thème, c'est une partie qui est plus précisément destinée à présenter les réseaux et la structure de ces réseaux, puisque ce dont je me suis aperçu en travaillant, c'est que souvent on garde en mémoire, on met en valeur 3-4 passeurs par réseau, parce que ce sont des figures qui sont devenues un peu emblématiques de cette activité, Mais il ne faut jamais oublier que derrière ces figures symboliques, il y a des dizaines de personnes avec des fonctions diverses qui font fonctionner ces réseaux. Je pense notamment à tous les agents de liaison, je pense aux personnes qui hébergent, je pense aux personnes qui également produisent les faux papiers. Donc il y avait une volonté de mettre en lumière un peu tout ce personnel qui est resté assez souvent dans l'ombre, mais qui a une importance considérable pour le fonctionnement de ces réseaux. Alors, pour préciser, il se trouve que dans les Hautes-Pyrénées, alors on a essentiellement deux réseaux qui sont extrêmement actifs. Il y a le réseau donc Esch, du nom de Gaston Esch, qui était un restaurateur tarbé, qui a en fait été contacté très rapidement par les Anglais à l'été 1940 pour constituer dans un premier temps un réseau de renseignements, qui est devenu assez vite un réseau en fait permettant de convoyer vers l'Espagne les aviateurs anglais, puis canadiens et états-uniens qui avaient été en fait descendus par la Luftwaffe ou par la FLAC, c'est-à-dire la défense antiaérienne allemande. Ouais. Donc ce Gaston Esch très rapidement s'est investi à la fois dans un réseau de renseignement, un réseau de passage, et puis plus tard dans un réseau appelé Buckmaster, qui était là un réseau d'action militaire. Et c'est un véritable homme orchestre qui a su à la fois créer en fait un réseau de maisons d'hébergement des différentes catégories à faire passer, puisque si au départ il s'est un peu spécialisé dans les aviateurs alliés, par la suite il a aussi fait passer d'autres catégories, belges, polonais, juifs, réfractaires au STO, etc. Et c'est quelqu'un qui a su aussi recruter dans notamment les associations sportives dans les Pyrénées, des passeurs qui, je dirais, avant la guerre et pour certains après la guerre, étaient aussi des grands sportifs, des grands spécialistes de l'escalade. Là, je pense notamment à François Vignol, ouais, et qui est une figure bien connue, notamment du côté de Luce. Ouais. On a ce premier réseau qui est assez lié quand même à l'intelligence service anglais. Mmh. Et puis il y a un second réseau que l'on appelle le réseau Andalousie, où là le pivot, l'homme orchestre de ce réseau s'appelle Gérard de Clarence. Et c'est assez étonnant le fait que ce jeune homme, Gérard de Clarence, soit à la tête de ce réseau, puisque autant Gaston Esch est quelqu'un qui, lorsqu'il prend la tête du réseau, est quelqu'un d'établi, qui a une quarantaine d'années, quelqu'un qui est déjà bien connu à Tarbes, quelqu'un qui s'est investi dans la Ligue des droits de l'homme, qui s'est investi déjà dans l'accueil des républicains espagnols. Et Gérard de Clarence, lui, il a tout juste 20 ans, quoi, hein, 22 ans en 42. Et donc c'est quelqu'un qui est un lycéen parisien, mais qui a pris l'habitude dans les années 30 de venir avec son ami Rémy Lose randonner dans les Pyrénées. Or, au moment de la défaite, en 1940, Gérard de Clarence, avec ses compagnons lycéens et étudiants, sont absolument sidérés et cherchent assez rapidement une manière de faire quelque chose. Comme ils disent dans les textes, il faut faire quelque chose. Alors, évidemment, pendant quelques semaines, quelques mois, ils ne voient pas trop ce qu'ils peuvent faire pour lutter,
normal,
continuer le combat. Ouais. Mais, à partir de l'année 1941-1942, l'idée va germer dans les cerveaux là, de Gérard de Clarence, de Rémy Lose, qu'il y a une possibilité de passer cette frontière pyrénéenne, et puis par le Portugal dans un premier temps, et puis par l'Espagne dans un second temps, lorsque Franco comprendra que la situation est en train d'évoluer et va quelque part se montrer de plus en plus compréhensif vis-à-vis des demandes alliées. Rémy Lose et Gérard de Clarence comprennent qu'il y a une possibilité de passer par l'Espagne, de passer par le Portugal, pour cette fois-ci non pas rejoindre l'Angleterre, mais plutôt rejoindre l'Afrique du Nord, de manière à rallier les armées de la France libre, qui, une fois qu'elles seront bien organisées en Afrique du Nord, suite à la prise de l'Afrique du Nord à partir du 8 et 9 novembre 1942, se projeter dans un premier temps en Italie et dans un second temps participer au débarquement en Provence le 15 août 1944. Donc tout cela, évidemment, lorsque Gérard de Clarens crée ce réseau, il ne le sait pas encore. Hein. Oui. Son idée, c'est surtout d'amener ces jeunes qui souhaitent continuer le combat et finalement mettre fin à cette occupation allemande en France, à leur donner la possibilité de traverser les Pyrénées. Et là, il va mettre en place une organisation extrêmement précise, parce que les risques, évidemment, sont grands. Hein.
Et oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où les troupes allemandes, qui sont d'ailleurs composées essentiellement au niveau de la surveillance de la frontière d'Autrichiens, qui sont spécialistes des terrains de montagne, à partir du moment où ces troupes surveillent les Pyrénées, les personnes qui sont arrêtées en train d'essayer de les franchir sont pour beaucoup déportées.
Ouais, d'accord.
Et
donc,
pour beaucoup d'entre elles, ne reviendront pas de déportation. Hein. Donc là, les risques sont énormes. Et Gérard de Clarens, qui est pourtant si jeune, a bien conscience de ce risque, et il met tout en œuvre pour que, à chaque convoi, à chaque tentative de passage, tout soit fait pour que les personnes, c'est souvent des convois de 20-25 personnes, ne soient pas prises. Parce que là, l'issue est
fatale,
assez souvent funeste.
Ouais, bien sûr. Voilà, ça c'était le troisième thème donc, oui, abordé dans ce livre qu'on rappelle « Passeurs évadés dans les Pyrénées » des éditions Kern. Et il y a un quatrième thème qui clôture le livre, on peut dire ça comme ça.
Voilà, alors il y a un quatrième et dernier thème où j'ai voulu finalement présenter plus précisément des grands acteurs de ces réseaux et également des grands acteurs parmi les évadés. Les évadés, ce qu'on appelle les évadés de France, mais aussi les évadés de manière plus générale, en évoquant donc notamment les Juifs qui ont sauvé leur vie en traversant cette frontière. Et donc, cette partie-là m'a permis de, par exemple, de présenter un jeune homme, Jacques Fauchon de Villeplay, lui-même compagnon de Gérard de Clarens à Paris. Très rapidement, lorsqu'il a connaissance que Gérard de Clarens a monté un réseau de passage dans les Pyrénées, ce Jacques Fauchon de Villeplay, qui est par ailleurs un brillant lycéen, puisqu'il avait réussi le concours de Polytechnique et qu'il s'apprêtait à rentrer dans cette école, décide, avec son frère aîné d'ailleurs, de passer la frontière, traverser l'Espagne, pour ensuite s'engager dans les forces de la France libre. Ce Jacques Fauchon de Villeplay passe la frontière vers la fin août, début septembre 1943, et comme ça a été le cas pour la majorité des jeunes hommes qui sont passés, il est arraisonné par la Guardia Civile espagnole, par les troupes franquistes, et passe quelques semaines dans des camps d'internement. Bon, pour la plupart, c'est des gens qui sont passés par les Pyrénées, notamment par les Pyrénées centrales. Il y avait d'abord l'étape de la prison de Barbastro, et puis après, un camp extrêmement connu pour tous les évadés de France, le camp de Miranda. Suite à cette période d'internement, il est libéré avec l'intervention d'un certain nombre d'organisations qui se trouvent en Espagne, je pense notamment à la Croix-Rouge, où officier un certain Monseigneur Boyemas, qui en fait était un agent qui aidait les organisations résistantes diverses et variées à faire passer ces jeunes vers l'Afrique du Nord. Et donc Jacques Fauchon de Villeplay profite de cette filière pour traverser le détroit de Gibraltar et se retrouver en Afrique du Nord. À ce moment-là, il connaît une formation assez rapide et s'engage donc dans un régiment blindé. Participe au combat en Italie, participe notamment à la libération de Rome et participe au débarquement en Provence du 15 août 1944. Il est, selon tous les témoignages que j'ai pu collecter, particulièrement apprécié par ses camarades parce qu'il devient assez vite sous-officier, donc il a, alors qu'il est très jeune, hein, des hommes sous sa responsabilité. Il participe à différents combats dans le sud-est de la France, il participe à la remontée des troupes françaises pour beaucoup issus d'Afrique du Nord, hein, vers le nord-est de la France. Et après, une dernière permission qui lui permet de voir ses parents, il décède malheureusement en Alsace, suite à des combats dans la petite ville de Tannes. Donc c'est un parcours parmi d'autres, mais qui permet d'illustrer différentes choses, c'est-à-dire la notion d'engagement, hein, pour ces tout jeunes hommes, et cette volonté qu'ils ont chevillée au corps de mettre fin à l'occupation allemande en France. Ça permet de symboliser aussi le fait qu'au niveau du passage de la frontière, il y a quand même un certain nombre d'invariants qui reviennent, c'est-à-dire pour beaucoup des jeunes qui se sont engagés, la prise de contact avec un réseau établi, une traversée réalisée souvent de nuit, de manière avec beaucoup de précautions, hein, puisque les risques sont grands. Ensuite, une période d'internement plus ou moins longue en Espagne. Et ensuite, arrivée en Afrique du Nord, une formation militaire qui permet par la suite d'être projeté sur les différents théâtres d'opération. Donc pour les premiers en Italie, pour ceux qui arrivent un peu plus tard, le débarquement en Provence, et puis la progression vers l'Alsace, et ensuite, pour certains d'entre eux, l'entrée en Allemagne et la poursuite des combats jusqu'à la défaite finale des nazis.
C'est là qu'on voit en fait, Thomas Ferrer, que ton livre est très complet. Donc on rappelle, Passeur évadé dans les Pyrénées, des éditions Kern. Voilà, il est très complet parce que là tu nous as fait un petit bilan succinct de ton livre, de tout ce qu'on peut y trouver dedans. Se rajoute aussi, il faut en parler, tu as fait le choix de quelques photos et de gravures de l'époque. Ça aussi, c'est pas évident à trouver peut-être, toutes ces archives.
Alors en ce qui concerne les documents qui sont proposés en fin de livre, il se trouve que j'ai pu profiter d'une source exceptionnelle et qui est tout à fait inédite, c'est-à-dire que Olivier de Clarens, le fils de Gérard de Clarens, a décidé de transmettre donc une partie des archives privées de son père aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Et il se trouve que le dossier qui a été donc remis aux archives était extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc des documents très officiels, bon, qui demandent évidemment un temps de lecture et d'analyse assez long, mais il y a aussi des objets, il y a des photographies. Donc j'ai pu en reproduire quelques-unes à la fin. Il y a des cartes également, des itinéraires de passage qui sont indiqués. Et bon, il y a aussi quelques documents émouvants, c'est-à-dire, bon, je pense par exemple à la photographie de Jacques Fauchon de Villeplay, qui est décédé donc très jeune dans la ville de Tannes. Il y a également des croquis, des dessins réalisés par Gérard de Clarens, notamment le dessin de l'intérieur donc d'une prison à Barbastro, de laquelle il va s'échapper vers la fin de la guerre. Et donc on peut retrouver tous ces documents. Bon, il y a une partie seulement est reproduite, puisque évidemment, la collection est tellement immense que rien qu'avec les ressources issues de ce fonds Gérard de Clarens, on pourrait faire une exposition.
Et d'ailleurs, on peut aussi rajouter que dans ce livre, ce qui est pas mal du tout aussi, il y a un tableau de statistiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
C'est vrai que j'ai réalisé un travail statistique assez important en me basant sur un document là aussi assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, a été établi un tableau récapitulatif des arrestations perpétrées par les Allemands dans le département des Hautes-Pyrénées. Mmh. Alors, ce tableau n'est certainement pas complet, mais il indique malgré tout qu'il y a eu 737 arrestations donc, dans le département des Hautes-Pyrénées. Mmh. Et là où il est très intéressant, ce tableau, c'est qu'il indique, hormis l'identité, la date de naissance, le domicile des personnes qui ont été arrêtées, il indique la motivation de l'arrestation, pourquoi ces gens ont été arrêtés. Mmh. Et cela m'a permis de constater que, notamment lors de l'année 1943, qui est l'année où beaucoup de personnes passent la frontière, et parmi elles, énormément de réfractaires au STO, avec l'objectif de continuer donc le combat contre le nazisme. Durant cette année 1943, on arrive à un pourcentage de quasiment 70 à 80% des personnes qui sont arrêtées parce qu'elles essayaient de passer la frontière. Donc il y a cet élément qui est très intéressant. Après, on peut même aller plus loin et s'apercevoir que durant cette année 43, c'est essentiellement entre les mois de mai et septembre que le maximum de tentatives de passage ont eu lieu, ce qui est logique évidemment étant donné les contraintes climatiques. Et la neige qui arrive quand même assez vite sur les Pyrénées durant cette année 43 et qui fait que beaucoup vont renoncer à leur projet de passage, en tout cas par les Hautes-Pyrénées. Puisque certains, ne pouvant pas passer par les Hautes-Pyrénées, ont ensuite essayé de traverser par le Pays Basque.
Oui, bien
et par
sûr,
les Pyrénées orientales, ouais. Même si pour les personnes originaires de Hautes-Pyrénées, c'est un peu plus rare malgré tout. L'autre intérêt de ce tableau statistique, c'est un intérêt plus général, parce que on voit bien aussi qu'au fur et à mesure que le conflit avance, les actes de résistance vont considérablement augmenter. Et au début de l'année 44, les Allemands font face quand même à toute une série d'attaques, de sabotages, qui entraînent évidemment après une répression extrêmement vigoureuse de leur part.
Ouais, voilà, donc là aussi c'est un tableau très intéressant, effectivement, à analyser. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce livre, succinctement, bien sûr, parce qu'il y aurait tant à dire. On rappelle donc c'est un livre écrit par Thomas Ferrer, auteur donc de Passeurs et évadés dans les Pyrénées, aux éditions Kern. Où peut-on le trouver, ce livre, et à quel tarif?
Alors, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Ouais.
Pour ce qui est des Tarbes, je pense notamment à la librairie des Beaux-Jours, à la grande librairie Leclerc, l'Espace Culture, et après dans toutes les librairies du département et des départements limitrophes. Et puis si votre libraire ne l'a pas dans ses travées, sachez qu'il peut évidemment le commander si vous lui demandez.
Bien sûr.
Pour les plus jeunes, sachez aussi qu'il se trouve sur
Internet.
De la FNAC et d'Amazon. Ouais.
Ou directement peut-être, ou directement sur les éditions Kern, où on doit pouvoir le commander aussi chez eux directement. En fait.
Tout à fait, il y a un site des éditions Kern qui est très très bien fait,
ouais.
Et il peut être commandé directement auprès de la maison d'édition au prix de 18 euros.
Merci Thomas Ferrer de nous avoir parlé un petit peu de ton dernier ouvrage qui s'intitule Passeurs évadés dans les Pyrénées aux éditions Kern, donc un ouvrage à ne pas manquer si vous êtes intéressé donc par la guerre, la dernière guerre dans notre secteur. Voilà. Merci Thomas.
Merci à vous pour cette invitation.